Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, quelle joie de vous accueillir dans un nouveau numéro tout beau, tout neuf d'Historiquement vôtre, en compagnie de celui qui aime tellement l'histoire qu'il consent à présenter cette émission quasi bénévolement.
Une besogne, payer une misère.
Oui, mais c'est le plaisir d'être ensemble, Stéphane. Ça vous fait plaisir?
Bien sûr, Mathieu, et ça, je vais vous dire, ça n'a pas de prix. Surtout pour entendre vos âneries. Bonjour à tous, merci à vous. En tout cas, chers auditeurs, d'écouter Historiquement vôtre, une émission que vous pouvez suivre en voiture, en faisant votre jogging, du jardinage, oui. Vos courses, mais aussi au bureau,
oui.
Avec des amis, en buvant du thé.
Mais voilà quoi.
Mais aussi dans votre bain.
Oui.
Ça vous ferait d'ailleurs un point commun avec nos personnages du jour.
Alors oui, Stéphane, mais ne souhaitons pas à nos auditeurs le même destin. Hein.
Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié de vous préciser, nos personnages du jour sont morts dans leur bain. À commencer
carrément avec un coup de feu.
Par un empereur romain pas commode. Son nom, Commode, justement. Qui a payé au prix fort ses agissements dans la ville de Rome qui n'a jamais connu pareil tyran. Il a fini assassiné dans son bain, et pas par n'importe qui, vous verrez. Puis lui aussi a été retrouvé mort dans son bain à 27 ans dans un appartement parisien. Mmh. Je vous raconte le génie du rock américain, le leader tourmenté des Doors, Jim Morrison. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'une femme également morte dans son bain, dont la vie incroyable a inspiré un film.
Oui, un film qui n'a pas eu un très grand succès à l'époque, mais qu'on redécouvre aujourd'hui. Keira Knightley y incarne Domino Harvey, une ex-mannequin devenue chasseuse de primes. Une destinée, vous allez voir, totalement farfelue et romanesque. Mais d'abord, saluons celle dont le destin aussi est farfelu, puisqu'elle est historienne et qu'elle se retrouve avec nous l'après-midi. Elle nous plonge chaque jour dans l'intimité des grandes semences, et parfois ça va très loin.
Il se faisait livrer des poules de geisha à l'évêché.
On embrasse le cardinal Lustiger. Bonjour Clémentine Portier-Keltenbach.
Ah, dites, c'est pas moi qui vais raconter cette histoire. Oh, olé, olé, c'était Stéphane.
Vous l'avez reprise à votre compte.
Mais ça vous a plu,
mais ça m'a bien
histoire.
Fait rigoler. Ah, oh, mort tragique, oui, que j'évoquerai également, celle de Wallace Hartley. Il est mort dans son bain, lui aussi, un bain plutôt glacé, puisqu'il était chef d'orchestre du Titanic. Et on a retrouvé son corps 10 jours après le naufrage, le 25 avril 1912, mais pas que, vous verrez.
Ah, on a fait d'autres choses.
Avec David Castel-Lopez, on remonte aux origines d'une histoire, d'une tradition, d'un objet. En l'occurrence, là, c'est le fer à cheval, n'est-ce
qui
pas?
Qui c'est qui a inventé le fer à cheval? Pourquoi il porte
le
bonheur?
Ah oui, vous nous direz aussi pourquoi il porte bonheur.
Ouais, ouais. C'est dur de mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait que ça porte bonheur. Mais il y a des histoires qui circulent. Et je ferai genre, la légende dit que...
Voilà. La légende dit que...
La légende poule, c'est avec nous aussi.
Oui, et là, alors, c'est une demande particulière, commande.
Une commande, puisqu'on a parlé du mocha, le café originel d'Éthiopie, et vous m'avez commandé un mocha, mais le gâteau, je vous reconnais là, sacré petit gourmand.
Et oui, c'est mon gâteau d'enfance.
Donc, je vous donnerai la recette du mocha et je vous raconterai d'où il vient. On l'attribue à un pâtissier, c'est identifié.
Personnellement, j'ai pas besoin de la recette, ma maman, elle me le prépare.
Ah oui, elle fait des bons mochas.
Oui, elle le fait tout le temps, j'ai même pas besoin de le demander. Dès que j'arrive, elle l'a fait le mocha. Burn to be alive, ça sera notre quiz. Vous savez, le quiz qui oppose Stéphane à Clémentine chaque jour pour voir lequel des deux est le plus balèze en histoire. Mais tout de suite, on va découvrir notre premier personnage bien mort dans son bain. Stéphane Bern nous raconte l'empereur Commode.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Paranoïa, débauche, tyrannie, cruauté. Oui, calmez-vous Stéphane. C'est un empereur romain que tous ces mots viennent se coller. Un empereur à qui Joaquin Phoenix a redonné vie dans Gladiator. Mort assassiné dans son bain. Le grand amateur de mobilier ancien Stéphane Bern nous raconte la vie et la mort de l'empereur Commode.
Il fait déjà nuit en cette fin d'après-midi du 31 décembre 192 et l'empereur n'est pas au mieux de sa forme. Dans son palais, près du Colisée, Commode est cloué au lit. Un torboyau de l'enfer le rend malade comme un chien. Après réflexion, il repense au vin que lui a apporté un peu plus tôt Marcia, sa concubine préférée. N'avait-il pas un goût bizarre? Le goût du poison, peut-être. Pour se remettre, Commode aurait pris un bain, comme à son habitude, mais soudain, une main lui en serre le cou. L'empereur suffoque, s'étouffe, puis meurt sur le coup. C'est Narcisse, son fidèle esclave, pas si fidèle que ça, visiblement, qui vient d'étrangler l'empereur de 31 ans. Mais que diable avait-il fait pour mériter cela? Eh bien, pas mal de choses, vous allez voir. Remontons 31 ans en arrière. En août 161, l'impératrice Faustine, épouse de l'empereur Marc Aurèle, met au monde des jumeaux, Titus Aurelius Fulvus Antoninus et Lucius Aurelius Commodus. Les astrologues leur prédisent un bel avenir, raté. Le premier meurt à 4 ans et le second va devenir l'un des plus grands tyrans que Rome ait connu. 5 ans plus tard, Marc Aurèle décide d'associer son fils Commode au trône en lui donnant le titre de César. C'est rare. D'habitude, faute de fils légitime, l'empereur choisit de transmettre le pouvoir à un fils adoptif. C'est ce qu'ont fait les prédécesseurs de Marc Aurèle de la dynastie des Antonins. Sous leur règne, au IIe siècle de notre ère, Rome a connu son apogée. On parlait même de siècle d'or. À la Renaissance, le penseur humaniste Machiavel surnommera Nerva, Trajan, Adrien, Antonin le Pieux et Marc Aurèle les 5 bons empereurs. Le 6e, Commode, va venir tout gâcher. C'est pas faute de l'avoir éduqué. Pendant tout son règne, Marc Aurèle prend soin de préparer son fils héritier au trône impérial. Il fait appel à une armada de professeurs et de précepteurs recrutés dans tout l'Empire pour lui apprendre les lettres, la rhétorique, la philosophie. La grammaire latine ne semble pas intéresser le jeune Commode. Non, ce qui le passionne, c'est l'éducation physique, la lutte, le pugilat et surtout la gladiature. Marc Aurèle ne prend aucun plaisir à la contemplation des combats. Il lit carrément son courrier ou donne des audiences au lieu de regarder ce qui se passe dans l'arène. Son fils, lui, ne peut détourner le regard des jeux un seul instant. Dans les années 170, Commode livre plusieurs batailles aux côtés de son père contre les envahisseurs qui menacent les frontières. Jusqu'à ce qu'en mars 180, Marc Aurèle décède subitement. Les fans de gladiateurs penseront que Commode a tué son père, mais rien n'est moins sûr. Il n'y a qu'un auteur sur les 4 principaux de l'époque qui évoque cette hypothèse, celle qu'a choisi de retenir le réalisateur Ridley Scott. En réalité, il est plus probable que Marc Aurèle soit mort de la peste à Vienne lors d'une campagne contre les Germains. Commode prend alors les rênes du pouvoir. Il pacte une paix avec les barbares qui permet à l'Empire de connaître quelques années de tranquillité. C'est à l'intérieur de Rome que l'empereur préfère se battre. Redoutable gladiateur, il a déjà totalisé 365 combats du vivant de son père et il gagne à tous les coups. Bon, il faut dire qu'il dispose d'un vrai glaive face à des adversaires qui ont entre les mains des armes d'entraînement. Ceci expliquant peut-être cela. Son règne avançant, Commode prend la grosse tête. Il règne par la terreur, obligeant les sénateurs à l'appeler Hercule, le prince d'or ou même le dieu. On raconte qu'il leur demande de changer les mois de l'année en fonction de ses surnoms et parsème sa chevelure de poudre d'or. Et pour pousser le bouchon encore plus loin, il n'hésite pas à rebaptiser la capitale de l'Empire en son nom. Rome devient la Colonia Commodiana. Forcément, à agir ainsi, l'empereur se fait des ennemis. Des complots contre ce chef un poil mégalo se profilent à l'horizon. Et cela même au sein de sa propre famille. Commode fait exécuter sa sœur, Lucilla, après qu'elle ait envoyé un certain Quintanius le tuer. En 182, l'homme se jette sur lui, un poignard à la main, en hurlant « Tiens, voilà ce que le Sénat t'envoie !» Il évite le coup, mais cette phrase ne quittera jamais plus son esprit. Tous les sénateurs deviennent dès lors ses ennemis, et tous les prétextes sont bons pour les faire assassiner. Des traîtres, en veux-tu, en voilà. 2 ans plus tard, Pérennis, à qui il a confié la gestion des affaires de l'Empire, veut donner le trône à son fils. Commode le fait exécuter l'année d'après. Il le remplace par Cléander, un affranchi ancien docker et proxénète. C'est un pied de nez au sénateur. Mais l'empereur fait lui-même les frais de son mauvais choix. Cléander s'amuse à entretenir sa paranoïa. Il lui répète sans arrêt « Empereur, j'ai encore déjoué un complot ». Réfugié dans son palais du Quintilie, dans les environs de Rome, Commode, dont l'état mental se dégrade chaque jour un peu plus sombre dans la débauche. Il s'entoure d'une ribambelle de courtisans parmi lesquels eunuques affranchis et concubines. Les orgies vont bon train. Sodomie, inceste et autres perversions s'y déroulent chaque jour. On y trouve parfois même des enfants qui ont été arrachés à leurs parents. Autant vous dire, et on les comprend, que les Romains sont très mécontents.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Bien morts dans leur bain, c'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi avec Commode, un empereur romain pas si commode, plutôt sanguinaire et tyrannique, qui a donc fini assassiné dans son bain. Stéphane, vous nous racontiez qu'il avait sombré dans la paranoïa à cause de nombreux complots, et dans les orgies aussi, mais ce qui semble surtout l'intéresser, ce sont les combats de gladiateurs.
À la suite du terrible incendie qui dévaste Rome en 192, Commode organise des jeux pour calmer la colère du peuple. Il combat lui-même dans l'arène du Colisée. À la loyale ? Oh, pas tout à fait, non. Ses adversaires ont encore une fois des armes factices. Et qui plus est, l'empereur combat entouré de deux hommes de main, armés. Oh, juste au cas où. Ensuite, se prenant pour Hercule, il se met à chasser des animaux sauvages. Le voilà qui tire frénétiquement à l'arc depuis des tribunes. Résultat, des cadavres de lions et d'ours jonchent le sol de l'arène. Désormais, c'est décidé. Commode veut s'habiller en gladiateur et non en empereur. Mais le problème, c'est que cela risque de déshonorer le prestige impérial. Marcia, sa concubine préférée, le prie d'en faire autrement. Mais elle n'a pas compris. L'empereur en a marre qu'on le contredise. Il s'empare d'une tablette et y inscrit les noms de ceux qu'il veut faire exécuter, Marcia en tête. Apprenant sa mort imminente, elle verse du poison dans le verre de vin de son amant. Mais Commode est robuste, son corps résiste. Pour se remettre de ses maux d'estomac, Commode prend alors un bain. Il adore barboter. Il en prend 7 à 8 par jour. Il n'en sort même pas pour manger. C'est alors que son esclave Narcisse, à qui Marcia a promis une belle récompense, l'étrangle jusqu'à la mort. Commode n'est plus. C'en est fini de cet empereur paranoïaque et tyrannique. À sa mort, l'Empire romain est dans un piteux état. Épidémies, guerres, famines ont terrassé la population. L'économie est en crise. Pour la première fois, les légions peinent à contenir les avancées barbares. Afin de se venger, le Sénat condamne Commode à la Danatio Memoriae. Chez les Romains, la mort n'est pas une fin d'existence en soi. Demeurer dans la mémoire des vivants permet de continuer à vivre. Quelques années plus tard, l'empereur Septime Sévère rétablit sa mémoire. Il va même jusqu'à forcer le Sénat à le diviniser, bien qu'il soit considéré aujourd'hui encore comme l'un des pires empereurs que Rome ait connu. Commode aurait adoré.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de l'empereur Commode, nous sommes avec l'historien qui lui a consacré une passionnante biographie. Bonjour Éric Tessier.
Bonjour.
Bonjour Éric Tessier. Vous avez publié Commode, l'empereur gladiateur aux éditions Perrin. On connaît beaucoup de grands noms de chefs romains emblématiques. Il y a évidemment César, les empereurs Adrien ou Néron. La personnalité de Commode a eu raison de sa postérité ?
Oui, certainement. Bon, c'est vrai qu'on le connaît quand même un peu grâce au cinéma. Il y a eu deux grands péplums qui lui ont été consacrés, donc la chute de l'Empire romain et Gladiator. Mais c'est vrai qu'il est pas, bon, c'est pas le plus sympathique des empereurs, hein. C'est sûr que c'est pour ça qu'il n'y avait pas eu de biographie, donc en tout cas en français, avant, donc celle que j'ai pu publier chez Perrin. C'est vrai que c'est certainement, on a hésité, donc, à se plonger dans ce personnage-là.
Son père, Marc Aurèle, décide de lui donner le titre de César alors qu'il n'a que 5 ans. Ce titre, en quoi il consiste ? Ça lui assure le pouvoir à la mort de son père ?
Oui, c'est pour, en fait, ça le consacre comme le successeur. Et il a un côté particulier, Commode. C'est le premier porphyrogénète, c'est-à-dire né dans la pourpre. Ça fait 2 siècles que l'Empire romain existe et on n'avait jamais eu ça, c'est-à-dire un empereur qui est un fils, qui ne sera pas donc adopté, qui est son fils par le sang. Et donc là, ça renforce ce côté dynastique, ce côté monarchique de l'Empire. D'où ce titre de César. On pourrait presque dire que si dans la monarchie française, ça serait un dauphin, quoi.
Vous expliquez dans votre biographie que la violence et le caractère tyrannique de Commode se font sentir dès son plus jeune âge. Ses précepteurs semblent visiblement effrayés par sa personnalité. Mais ils sont le seul à le voir ? Son père ne voit rien venir trop occupé à gérer Rome ?
Ben, il faut dire que le règne de Marc Aurèle, donc, qui se déroule pendant l'enfance et l'adolescence de Commode, est difficile. Donc, il doit guerroyer d'un côté chez les Parthes, donc c'est l'Irak actuel. Après, il y a tout un certain nombre de peuples germaniques qui vont passer la frontière du Danube. Donc c'est vrai que Marc Aurèle est souvent éloigné. Et puis surtout, Marc Aurèle, il a été éduqué comme ça. Donc il a eu d'excellents précepteurs. Ça en a fait un empereur philosophe. Et donc lui, il fait la même chose. Il se dit, avec les très bons précepteurs qu'il a, ça ne pourra pas mal marcher. Peut-être qu'il est aussi un peu pris par le fait justement que c'est vraiment l'empereur désigné, que c'est l'empereur légitime. Il a eu beaucoup d'enfants. Il a eu 13 enfants, Marc Aurèle, mais il y en a seulement 5 qui ont survécu, dont un seul garçon. Donc, il a peut-être misé un peu trop sur ce rejeton-là, même si ce n'était pas forcément le bon.
Cette violence, Commode l'utilise beaucoup dans les combats de gladiateurs. Vous le qualifiez d'ailleurs d'empereur gladiateur. Mais en plus d'être violent, il ne semble pas très loyal au combat. C'est quelqu'un qui veut la victoire à tout prix. Il y a un côté un peu ridicule quand même chez lui.
Ben oui, c'est ça qui va aussi le ridiculiser aux yeux des Romains. Alors après, la gladiature qui existe à l'époque romaine, c'est pas celle qu'on nous montre dans les films. C'est très différent. C'est quelque chose qui est très normé, qui est très réglé, où la mort est pas systématique, loin de là. C'est surtout le côté technique, le côté escrime. C'est des types de gladiateurs. Ça n'existe pas un gladiateur. On est sécouteur, on est rétier, on est thrace, on est mirabilion. Tout ça est très très codifié. Et donc c'est pas le fait qu'il soit gladiateur qui soit scandaleux. Finalement, la gladiature, c'est un sport de combat comme aujourd'hui le karaté. Donc c'est plutôt noble, puis dans le sens que les légionnaires s'entraînent à l'escrime des gladiateurs. Ce qui va le déconsidérer, justement, c'est ça, c'est le côté mauvais joueur, et du coup ça devient criminel, parce qu'il va souvent tuer ses adversaires qui sont quasiment désarmés. Bon, lui-même doit être assez costaud, bon, commode, ça doit être une armoire à glace, hein. Donc c'est évidemment aussi ce qui fait qu'il emporte très souvent, quoi. Donc il est habitué à cette lutte, il est habitué à ce type de combat, et d'un sport de combat, il va en faire de plus en plus quelque chose de criminel, dans un esprit assez paranoïaque.
On continue à parler de nos personnages qui sont morts dans leur bain et de l'empereur Commode en particulier avec notre invité Éric Tessier sur Europe 1. À tout de suite.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Ah, un bain, c'est tellement agréable. Sauf évidemment quand on vous bute dans votre bain. C'est le thème d'Historiquement vôtre cet après-midi. On parle de l'empereur Commode avec notre invité, l'historien Éric Tessier. Alors, Commode est mort dans son bain. En tout cas, c'est ce que Dion Cassius, un historien contemporain de l'empereur, affirme. Sa concubine Marcia avait un plan A et même un plan B pour l'éliminer. Elle se prépare minutieusement pour ce meurtre, hein.
Pas vraiment, en fait, c'est un peu la panique, quoi, parce qu'elle s'aperçoit, comme Stéphane l'a expliqué, qu'elle est sur la liste des prochains condamnés. Donc elle improvise justement le coup du poison. Manque de chance, il est parano, l'ami Commode, et donc il s'est mitridatisé, quoi, depuis longtemps. Il absorbe de petites doses de poison qui va le rendre finalement réfractaire au poison qu'on lui administre. Donc il va vomir, et donc c'est un peu dans la panique, alors qu'il est certainement donc dû aller se baigner. Qu'on va soudoyer cette esclave pas si fidèle que ça pour l'étrangler. Bon, on peut imaginer aussi que ce Narcisse, d'ailleurs c'est ce que disent les sources, c'est un athlète, c'est un lutteur, c'est un gladiateur, et que Commode avait certainement l'habitude de lutter avec lui, il a pas dû se méfier, et puis bon, voilà, la prise a été fatale cette fois-là.
Et le bain, c'était l'endroit idéal pour le tuer, vu qu'il y passait vraiment ses journées, 7 à 8 bains par jour, ça fait quand même beaucoup, c'est un peu une légende ça, ou...
Bah après, bon, c'est toute la question justement des sources antiques, et on n'a pas énormément de sources. Bon, là on a quatre historiens qui nous racontent des choses sur Commode. Il y a peut-être une exagération, parce qu'il est tellement finalement mal vu, Commode, surtout par les sénateurs qui écrivent l'histoire souvent après sa mort, qu'on peut pas peut-être se dire qu'il y a une exagération, mais ça correspond à un personnage qui s'est enfermé dans son palais, qui ne voit plus personne, sinon c'est très nombreux concubins et concubines, on en compte 300 de chaque sexe, ce qui est pas mal. Et donc oui, le bain, ça fait partie de ce côté un peu lascif, oisif de Commode, et donc c'est probablement donc proche de la réalité, quoi.
Vous dites d'ailleurs dans votre livre que la fin de son règne est marquée par une paranoïa extrême. Il perd tout contact avec la réalité. Il marche comme un somnambule vers l'abîme où il semble vouloir entraîner le plus de monde possible. Sa fin, c'est une véritable déchéance, autant physique que mentale.
Oui, physique, mental, moral aussi. Je pense que c'est cette expérience où il a voulu combattre dans l'arène. Jusque-là, il le faisait devant ses courtisans. Donc, ça allait très bien. Bon, qu'il a voulu justement descendre dans l'arène du Colisée, ça a dû être une affiche extraordinaire. L'empereur dans l'arène. Et c'est là où 50 000 Romains ont vu que c'était du chiqué. Donc, il a été sifflé. Donc, je pense que ça a dû lui porter un coup au moral. Et donc, ça a dû le renforcer dans sa paranoïa qui se trimballe depuis pratiquement le début de son règne, hein, depuis quand même. Sa mère a comploté contre lui, sa sœur a comploté contre lui. Il avait quand même un terrain favorable, quoi. Après, il y a aussi une consanguinité, hein. Donc, il est issu d'un mariage entre cousins germains, donc ça peut ne pas aider. Il y a eu beaucoup de morts autour de lui, hein, dans ses frères et sœurs. Donc, il trimballe peut-être une hérédité assez lourde, mais c'est sûr que la fin du règne est de pire en pire, quoi.
Et au moment de sa mort, on peut dire qu'il est totalement désavoué par la population et par la classe politique romaine.
Oui, par la population, c'est assez récent. Parce parce qu'il a, on peut dire qu'il a gavé le peuple de spectacles, de courses de chars, de gladiateurs, de combats de gladiateurs quasi en permanence. Donc ça le rendait populaire. Mais le peuple a été vraiment déçu par sa prestation. Donc je pense qu'il devient impopulaire même dans le peuple. Le Sénat, il a été terrorisé depuis le début par ce tyran. L'armée, bon, bah, elle fait son job. Elle est sur les frontières. Elle va maintenir donc les frontières pendant son règne. Mais c'est vrai que à Rome, il est complètement déconsidéré, donc personne ne va vraiment le regretter.
C'est-à-dire qu'après son règne, la ville de Rome n'est plus ce qu'elle était finalement. Il n'a rien fait de concret politiquement durant son règne, c'est l'impression qu'on a. Hein.
Oui, concrètement, l'Empire était un peu en pilotage automatique. C'est-à-dire que lui, alors que son père était très présent, très actif dans la gestion au quotidien, bon, Stéphane l'a dit, il fait sa correspondance aussi pendant les combats gladiateurs, donc c'est vraiment un bosseur, le père. Lui, il est complètement... on pourrait dire à l'ouest, dans son palais où il est claquemuré. Et ce qu'il a fait finalement, c'est qu'il a laissé l'Empire à ses favoris, quoi, qui ont été une sorte de mafia, qui ont vendu les postes. Il y a eu certainement donc un déclin à ce niveau-là. Heureusement, l'armée, elle est restée efficace. C'est pour ça d'ailleurs que ce sont des généraux qui vont prendre la suite après sa mort. Mais lui, personnellement, il a rien fait de concret. Il se préoccupait simplement de sa mégalomanie, de sa paranoïa. En s'imaginant être Hercule, en s'imaginant être un gladiateur, le prince des Sécoutors, c'est un type de gladiateur qui combat l'héritière et qui s'attribuait 1000 victoires. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ce livre L'Empereur Gladiateur, parce que c'est vraiment un élément important, mais qui c'est pas la vision que nous on en a. C'était quelque chose de presque sacré, la gladiature, et qu'il a déconsidéré par son action. Quoi.
Et pour autant, vous évoquez le fait que les 31 années de l'existence de Commode constituent une période de transition fondamentale dans l'histoire de Rome. C'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que c'est un moment charnière.
Oui, c'est vraiment un moment charnière, mais je dirais que c'est pas de sa faute, quoi. Quelque part, parce que surtout le règne de Marc Aurèle a été marqué par des invasions, par des épidémies terribles. Il y a dû avoir un déclin démographique dès cette époque-là. Donc il hérite quand même d'un empire qui a été pacifié. Le père a fini donc ses guerres. Commode a continué. D'ailleurs, 6 mois, il est resté donc sur le Danube. Il a imposé une paix plutôt avantageuse qui va durer pendant 2 générations face aux Germains. Mais le problème, c'est que l'Empire a été entamé pendant le règne de Marc Aurèle. Il aurait fallu un très bon empereur à ce moment-là pour remonter un peu l'économie, pour redynamiser cet empire qui avait été vraiment choqué par les invasions et les épidémies. Et lui, donc, au lieu de faire ça, donc, il n'a fait qu'aggraver les choses, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment charnière. Toute sa vie, son existence est charnière. Et en fait, c'est surtout son absence d'action concrète sur la gestion de l'Empire qui fait que les choses sont allées de mal en pis.
Mais alors comment vous expliquez que Septime Sévère s'est par la suite revendiqué de lui? On a du mal à comprendre. Il fait lui aussi partie des pires empereurs de l'histoire de Rome?
Ben non, Septime Sévère, c'est plutôt un restaurateur, lui. Lui, c'est un militaire, c'est un oriental. C'est aussi ça le basculement, c'est que les Antonins, c'est des occidentaux, ils viennent d'Espagne ou de Gaule. Les empereurs qui vont suivre sont des orientaux. Et ça, c'est le choix de Commode, finalement, qui a favorisé donc vraiment, on pourrait dire, une clientèle orientale plutôt qu'occidentale par rapport à l'Empire. Septime Sévère, lui, c'est un général. C'est vraiment un général efficace. Le problème, c'est qu'à son époque, il va y avoir plusieurs généraux qui vont se revendiquer du trône. Il va l'emporter et le Sénat va lui être hostile. Le Sénat va plutôt miser sur les mauvais chevaux. Et en fait, cette revendication de dire « je suis le frère de Commode, je suis l'héritier de Marc Aurèle », c'est surtout un message qu'il lançait au Sénat en disant « voyez, moi, je suis capable de faire comme lui. Je peux aussi zigouiller des sénateurs ». C'est à la fois de la provocation par rapport à Commode et c'est aussi politiquement, c'est de dire voilà, je suis dans la continuité des Antonins, je vais renouveler ce siècle d'or. Mais bon, il y a quand même eu un déclin et même si ça ne sera pas une chute brutale, l'Empire va avoir du mal à s'en remettre.
Et merci beaucoup Éric Tessier d'être revenu avec nous sur le sombre règne de cet empereur sanguinaire et paranoïaque. Je rappelle la biographie que vous lui consacrez aux éditions Perrin, Commode, l'empereur gladiateur. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Europe 1, historiquement vôtre.
À suivre, on le sait désormais, un bain trop chaud est mauvais pour la santé. Mais attention, un bain trop froid aussi. C'est en tout cas le témoignage qu'aurait livré Wallace Hartley, le chef d'orchestre du Titanic, s'il avait survécu au naufrage. Clémentine Portier-Keldenmack nous raconte son histoire glaçante.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16 heures, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui font parfois froid dans le dos. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, lui, a eu froid, mais pas que dans le dos, puisque vous nous racontez Wallace Hartley, le chef d'orchestre du Titanic.
Oh, mais c'est affreux, écoutez, vraiment.
Un peu de respect pour la mémoire de cet homme. Mais,
d'autre part, je pense qu'on meurt très très vite hein, dans oui. l'eau.
Non, on meurt lentement, mais il paraît, je me suis intéressé à ça, que c'est une des morts les moins désagréables. Parce qu'en fait, on perd un peu connaissance, les sens sont tous diminués. Et donc, on se rend moins compte du truc.
On est ankylosé. En tout cas, Wallace Hartley, lui, il est mort façon glaçon. Hein. Il avait pourtant fait beaucoup de traversées avant d'être engagé sur le Titanic en avril 1912. Il avait déjà fait 80 voyages sur mer, sur différents paquebots. À l'époque, c'était les noms en A. Alors, le Lucania, le Lusitania, le Mauritania. Et c'est un jeune homme de 34 ans lorsqu'il est embauché en avril 1912 sur le Titanic. Ils sont 8 musiciens en tout qui vont assurer l'animation musicale à bord. Alors ils s'organisent en 2 formations. Leur rythme de travail d'ailleurs c'est pas trop intense. Hein. Ils ont quartier libre toute la matinée. Et de 15 à 17 heures, et le reste du temps, ils jouent dans le salon de première classe, la salle de réception, et puis évidemment à l'office dominical. Donc le 14 avril 1912, vers 23h30, le Titanic heurte un iceberg, on le sait, et c'est là qu'on demande à l'orchestre de jouer des airs entraînants. Allez-y, jouez-nous du ragtime, du jazz, il ne faut pas que les passagers paniquent. Premier élément de polémique, on le devine, c'est que en entendant une musique gaie, les passagers ont eu un sentiment de confiance qui les a plutôt incités à rester à bord. Est-ce qu'on n'aurait pas dû au contraire, pas faire de la musique de la musique tragique et puis rendre les passagers un peu conscients de la gravité des choses. Allez-y, embarquez plus vite que ça. Alors qu'on le sait, il y a des tas de canaux qui sont partis à moitié vides. Autre grande question. Le dernier air interprété fut-il plus près de toi, mon Dieu? Ou la valse songe d'automne. Là aussi, les témoignages sont contradictoires. Cette grave question sera-t-elle un jour résolue? Quoi qu'il en soit, les musiciens auraient finalement arrêté de jouer vers 2h du matin, après quoi Hartley leur aurait déclaré « Messieurs, ce fut un privilège de jouer avec vous ce soir. » Et puis après, chacun pour soi, tous les musiciens sans exception ont péri dans le naufrage.
Ah oui, vraiment, il n'y avait plus de canot pour eux.
Non, il n'y avait plus rien. Alors, 10 jours plus tard, le 25 avril 1912, il y avait un bateau qui était chargé de récupérer les corps. On retrouve le corps d'Hartley, il était en uniforme et il serre contre lui son violon. Le corps est rapatrié en Angleterre à bord de l'Arabic. Ça y est, là on est dans la série des bateaux en nick. 30 000 personnes se pressent pour assister à ses funérailles qui ont lieu à Colne, sa ville natale. Et sur sa pierre tombale, alors là c'est très touchant cette pierre tombale parce qu'on a gravé les premières mesures de plus près de toi mon Dieu. Et on a représenté également son violon. Parce que ce violon était un cadeau de Maria, sa fiancée, qu'il allait épouser à son retour, même si il lui-même se surnommait Oakley, parce que c'était un peu un séducteur et que pendant les traversées transatlantiques, sa fiancée, il l'oubliait un petit peu. Enfin, venons-en à ce violon. On retrouve en 2006, ça n'est pas si vieux, un violon annoncé comme étant celui d'Hartley. Et on l'identifie parce qu'il y a une petite plaque en argent sur laquelle est inscrit « Pour Wallace, à l'occasion de nos fiançailles, Maria ». Mais il va falloir 7 ans et des milliers de dollars pour certifier l'origine de cet instrument. D'abord, il ne figurait pas sur la liste des objets trouvés. Donc on se dit, s'il n'y est pas, c'est que ce violon n'existait pas. Mais c'est le cas apparemment de nombreux objets qui ont été retrouvés et ne figuraient pas sur ces inventaires. D'autre part, à l'époque, dans 4 journaux différents, on annonce le fait qu'on ait retrouvé Hartley et un violon. Bon, ça n'est pas un inventaire officiel, mais enfin, c'était mentionné. Et surtout, ce qui plaît dans la faveur de l'authenticité de ce violon, c'est que dans le journal de Maria Robinson, donc la fiancée d'Hartley, on a trouvé une transcription d'un télégramme daté du 19 juillet 1912, un télégramme dans lequel elle exprimait sa gratitude à ceux qui avaient rendu possible le retour du violon. Donc ça, c'est quand même une très très bonne indication. D'où sort ce violon qu'on retrouve en 2006, lorsque Maria Robinson meurt, donc la fiancée d'Hartley. c'est sa sœur Margaret en 39.
Elle n'avait pas épousé quelqu'un d'autre après.
Elle est restée vieille fille. Apparemment, elle a été très très déprimée toute sa vie. Bah, c'était l'homme de sa vie. Il avait les oreilles un peu décollées, mais il était pas mal. Bon, il avait l'air de plaire aux femmes, en tout cas. En tout cas, quand elle meurt, la Margaret, sa sœur, elle donne le violon au major Renwick, un chef d'orchestre de l'armée du salut de Wellington, qui enseigne la musique. Et lui, le donne à une de ses élèves, qui l'a conservé ce violon pendant 75 ans. Et c'est le fils de cette dame qui a contacté le commissaire-priseur qui va faire la fameuse vente du violon. Et d'ailleurs, cet homme-là, il possédait d'autres objets ayant appartenu à Hartley. Une valise en cuir à ses initiales, des partitions, une bague, une paire de ciseaux. Alors ce violon, à quoi ressemble-t-il ? Ben, il est resté 10 jours dans l'eau glacée. Mais il était protégé par son étui marqué aux initiales WHH Wallace Henry Hartley. Il est parsemé de taches d'humidité. Il a quand même pris l'eau, donc il y a deux longues fissures. Et il ne reste que deux cordes et cette petite plaque d'argent. On a nommé des experts judiciaires gouvernementaux, des spécialistes de la corrosion de l'université d'Oxford. Premier test. Qu'est-ce que c'est le premier test sur un violon qui a séjourné dans l'eau ? Un test de salinisation. Y a-t-il des traces de sel attestant d'un séjour dans l'eau ? Parce que si ce test-là avait été négatif, c'était plié et l'affaire s'arrêtait là pour ce violon. On a examiné les sangles, on a examiné la plaque de métal. Est-ce que sa corrosion est comparable à celle d'autres objets trouvés sous l'eau ? Y a-t-il ou non des micro-algues ? Et si on trouve des algues, sont-elles compatibles avec celles que l'on trouve au large de Terre-Neuve, là où le bateau a coulé ? Ça fait des décennies qu'on débattait sur ce violon parce que certains pensaient que jamais Hartley n'aurait eu le temps de se sangler, de s'accrocher avec son violon, mais il semble que quand même si, avant de sombrer définitivement, il se l'est accroché autour du corps. En tout cas, c'est vraiment extraordinaire, la charge historique, émotionnelle, affective autour de ce violon. Et donc le 19 octobre 2013, ce violon en bois de rose de Wallace Hartley, le chef d'orchestre du Titanic, a été vendu plus d'1 million d'euros. Et cette vente constitue un record absolu pour un objet trouvé à bord du Titanic.
Merci beaucoup Clémentine, osez-vous.
C'était une belle illustration sonore de cette histoire qui méritait peut-être mieux, mais histoire d'un autre naufrage à suivre, c'est le quiz.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
C'est une femme qui croque la vie, hein, je crois qu'on peut le dire, une femme qui aime les hommes qui ont du répondant, d'où quelques déceptions dernièrement avec des amants trop jeunes.
Bah, c'est comme d'avoir un stagiaire de troisième, tu sais pas trop quoi lui faire faire.
Rassurez-vous Clémentine, voici un homme d'expérience, Stéphane Bern. Ensemble vous allez pouvoir jouer, mais en gardant vos vêtements, c'est mieux. À Bern to be alive, notre célèbre quiz. Stéphane, partons pour la Suisse. Hein ? Dans le canton de Turgovie, nous sommes en 1500 et Jacques Nuffer va pratiquer et réussir la première césarienne, certes sans anesthésie, mais la mère et l'enfant vont survivre. C'est évidemment la première fois de l'histoire qu'une césarienne marche au sens où la mère survit. Quel était son métier à ce Jacques Nuffer ? Aiguiseur de couteaux ou châtreur de porc ?
C'est-à-dire, si c'est aiguiseur de couteaux, ça paraît normal. Oui. On va dire,
il aiguisait bien le couteau, il pratique la césarienne. Quoi.
Exactement.
Effectivement, moi je pense que j'aurais à subir une césarienne, je préférerais avoir affaire à un châtreur de porc qu'un aiguiseur de couteau.
Donc je pense qu'il était châtreur de porc.
Ou à quelqu'un qui faisait les deux.
Vous avez gagné.
Très bon raisonnement, Stéphane Bern. Et c'est sa connaissance de l'anatomie qui a fait qu'il a demandé aux autorités l'autorisation de pratiquer l'opération. À cette époque, l'épuisement de l'intervention, le manque d'hygiène et l'écoulement sanguin faisaient qu'on n'avait aucune chance, normalement, de s'en tirer. Mais lui, il a réussi à sauver aussi la mère. La césarienne ne sera vraiment sûre qu'après 1940, avec l'arrivée des antibiotiques. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Au 15e siècle maintenant, les soldats portugais avaient une épée peinte en rouge, l'objectif étant d'impressionner ceux qui allaient se battre contre eux. Vrai ou faux ?
Alors, ce qui me paraît curieux dans cette histoire, c'est que la peinture sur le fil d'une épée l'aurait rendue moins coupante, donc ça me paraît aberrant. Je réponds non.
Vous avez...
Elle répond non.
Gagné.
Et elle a raison, mais pas
pour la bonne raison.
La bonne raison. Elles étaient peintes en noir pour éviter qu'elles ne reflètent la lumière et elles résistaient ainsi mieux à l'eau salée. Vraiment, ils se battaient souvent.
Mais vous ne croyez pas qu'un badigeon de peinture sur une surface en métal émousse la lame ?
J'aurais dit aussi pareil, mais si les Portugais l'ont fait, c'est qu'ils avaient une bonne raison.
Oui.
Stéphane, restons justement avec cette épée qui intrigue tant les soldats portugais du 15e siècle. On l'appelait l'épée noire Carac. En portugais, elle était surnommée également, il nous faudrait David Castelo Lopez, Colonna. C-O-L-H-O-N-A. Que l'on peut traduire vulgairement par grosse boule. Vrai ou faux ?
Non, mais vous prononcez mal, alors on ne peut pas savoir.
On peut pas
c'est
savoir.
Alors, attendez, une ambiguïté sur le mot.
David Castelo Lopez va venir nous prononcer alors, ce voilà. mot en portugais. Il va venir nous prononcer, comme ça vous allez pouvoir vous prononcer, Stéphane. Le mot est celui-ci.
Je crois qu'on me l'a montré, c'est Coulhone, c'est ça ?
C-O-L-H-O-N-A.
Ah, Coulhone. Voilà, ben c'est ça. Mais
Coulhone.
Coulhone. J'y crois.
Alors, d'après vous, est-ce qu'on surnommait cette épée ainsi ? Merci David pour votre intervention.
Je vous en prie. Ce serait pas mal, du coup. C'est...
Ah, du coup, ça vous intéresse plus. Tout de suite, ça s'appelle grosse boule, une épée à grosse boule. Là, tout de suite, vous pensez que c'est vrai. On voit comment vous... Vous élaborez vos réponses, c'est intéressant, ça dit long.
C'est pile ou face.
Oui, oui, oui.
Je joue ma vie à pile ou face.
Tous mes sentiments
à pile ou face.
Bon, oui, bon, alors... écoutez, calmez-vous, alors, s'il vous plaît. Alors,
donc, est-ce que cette épée s'appelait la couillonne ? Aidez-moi. Oui, elle s'appelait la couillonne, genre, t'as pris ta couillonne, oui, j'ai pris ma couillonne. Je guerre
avec ma couillonne.
Elle est bien
aiguisée, ta couillonne ? Oh voilà, oui, exactement. La mienne est bien aiguisée, la mienne alors. Est plus longue que la tienne.
Vous avez... Gagné.
Bonne réponse. L'épée avait une garde avec deux anneaux de protection qui pouvaient également piéger la lame de l'adversaire. Cette double forme ronde rappelait les testicules et la lame terminée d'évoquer la forme phallique de l'épée, évidemment. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Franz Helm a vécu au XVIe siècle. Allemand né à Cologne, il fut un grand artificier et il a mis son savoir au profit des armées du Saint-Empereur romain Charles V en combattant l'Empire ottoman. Il a également écrit un livre où il décrivait son savoir. Il expliquait notamment comment utiliser un chat pour mettre le feu à une ville en état de siège que l'on voulait déstabiliser. Vrai ou faux ?
Un chat, je trouve ça bizarre. Qu'on puisse mettre le feu à une ville en état de siège avec des animaux, oui. Mais c'est l'idée du chat qui me paraît curieux. Parce qu'un chat enflammé, c'est très, très, très facile de
d'enflammer un chat.
Non, d'enflammer un chat n'est pas facile. Mais non, je me demande, c'est pas plutôt avec d'autres animaux, avec des chevaux caparaçonnés, traînant derrière eux une charrette de foin.
C'est bon, ça va, vous ne manquez pas d'imagination. Si jamais un jour on doit assiéger une ville, on peut faire appel à vous.
Avec des cochons, avec... Non, je des dis cochons. Non, pas avec
alors
un
moi,
chat.
Je t'incite à mieux quand même.
Mais tout de même, malgré tout, un chat. Alors un chat, comment peut-on... En le badigeonnant de poids, on peut l'envoyer, peut-être. Mais mon vieux, il faut qu'il puisse... ça me paraît. Mais je pense quand même, il avait dû essayer de décliner toutes sortes de méthodes, dont celle du chat, naturellement.
C'est votre idée. Voyons voir si l'histoire vous donne raison.
Vous avez...
Eh oui, un chat pour mettre le feu à une ville. La technique était simple, il l'écrit et le dessine même. Il faut capturer un chat de la ville que l'on veut incendier, lui attacher un sac en feu sur le dos. Ce dernier, le chat en panique, veut forcément se réfugier dans une grange. Dans une grange, ça qui est important. L'affaire est faite. On ne sait pas si Franz Helm a lui-même utilisé cette technique, ni si une autre personne a essayé, ni si ça marche vraiment. Ça, on ne peut pas savoir. En tout cas, ce qui est important, ce qu'on sait, c'est que vous êtes à égalité. D'où la question 5. Jean-Pierre Houël est un graveur et dessinateur né en 1735. Également peintre, on lui doit la célèbre aquarelle représentant la prise de la Bastille. Agrégé de l'Académie royale de peinture, on lui doit également une œuvre plus étrange. Que représente cette œuvre ? Trois propositions. Il s'agit d'une nature morte avec des abricots, une carafe, une motte de beurre et la tête de Marie-Antoinette. Il s'agit d'un portrait de Louis XIV habillé en révolutionnaire. Ou il s'agit d'un... deux éléphants s'accouplant dans la position du missionnaire.
Oh, trois.
Deux.
Pour vous, Stéphane Bern, la personne qui a peint la prise de la Bastille a également peint un tableau figurant deux éléphants
je
s'accouplant dans la... Visualiser, deux mais... éléphants qui s'accouplent dans la position du missionnaire. Ça,
non,
c'est votre réponse, Stéphane.
Non,
c'est...
Un,
c'est...
Un,
non
un.
Vous avez dit trois. Non, vous avez
dit
trois, Stéphane.
Dit
et vous remportez le quiz, Stéphane. Oui, oui. Deux éléphants qui s'accoupent dans la position du missionnaire.
Ça, montrez-moi ça.
C'est magnifique, madame. Chaussez vos lunettes. C'est
parce
sublime.
Que, si vous voulez, mon raisonnement est le suivant.
Racontez-nous.
Je ne peux pas penser qu'il ait fait une nature morte avec la tête de Marie-Antoinette. Et deux, je ne vois pas pourquoi il aurait peint, alors qu'il était au XVIIIe siècle,
Justement, parce que ça n'égratignait personne. Voilà. Bon, c'était une façon de s'en prendre à l'absolutisme.
Non, ça a l'air de vous plaire, hein, ce
tableau.
C'est
la pauvre éléphante qui est sur le dos, à mon avis, elle ne va pas s'en remettre.
Et alors, vous êtes fiers d'avoir gagné avec ça, avec deux éléphants qui s'accouplent dans la position du
missionnaire. Pourquoi ce tableau ? Il était fasciné par Hans et Marguerite, deux éléphants qui étaient au Jardin des Plantes. Les citoyens se passionnent pour les deux pachydermes qui, je cite, « n'ont pas l'exhibitionnisme sans gêne des singes qui rappelle le temps de l'aristocratie sans foi ni morale. Le peintre dort plusieurs nuits dans la ménagerie pour voir comment il copule. N'assistant pas à la scène et devant prouver que les animaux vivent bien sous un régime républicain, il invente et fait une gravure où on les voit faire l'amour comme des humains. Voilà, c'est l'histoire de ce tableau. Voilà. Simulacre des instants de la génération. Titre un peu alambiqué.
Mais c'est bien, je suis content d'avoir gagné avec
la position du missionnaire des éléphants. Ça, c'est tout, Stéphane.
Europe 1, historiquement vôtre.
Vous êtes plutôt bain ou douche, Stéphane ?
Je ne prends que des douches, je ne prends jamais de bain.
C'est vrai ?
Oui, économiser l'eau.
Oh, mais vous êtes vraiment une sorte de perfection, Stéphane.
Non, c'est depuis toujours. Puis j'ai été traumatisé enfant par les bains.
Ah, vous avez été traumatisé enfant?
Oui, parce que je prenais le bain après mon frère et donc il y avait l'aîné.
Ah, il n'avait pas bien nettoyé?
C'est pas ça, j'avais toujours de l'eau.
Croupi, vous n'aviez pas le droit de changer l'eau.
Non,
il fallait pas.
Pas d'argent.
On économisait l'eau, donc vous baignez dans l'eau de votre frère. Ah oui, je comprends.
Ah, on n'était pas élevé en Suisse.
Oui, mais vous savez qu'aujourd'hui, à mon avis, je ne connais pas exactement votre salaire, mais à mon avis, vous pouvez vous permettre de prendre de l'eau propre pour votre bain. Vous n'êtes pas obligé de vous laver dans.
Du coup, j'ai pris l'habitude d'avoir des douches.
Oui, vous lavez aussi avec vos teckels parfois, monsieur Nalton. C'est vrai que j'avais oublié.
Non, mais alors je ne me lavais pas. J'ai fait une photo parce que j'ai une baignoire. J'ai fait une photo dans une baignoire.
Mais la baignoire était vide. Moi, je suis plutôt bain. Enfin, j'étais, parce que cette émission est en train de chambouler mes préférences.
Ouais, je vois, parce que vous avez peur maintenant.
J'ai peur.
Vous avez peur. Je vous comprends, Mathieu, parce que le point commun de nos personnages jour, c'est d'être bien mort dans leur bain. Après l'empereur romain Commode, qui a fini assassiné, il a bien cherché. Hein. Je vous raconte la triste fin qu'a trouvé Jim Morrison, le rocker leader des Doors, dans la baignoire de l'appartement qu'il occupait à Paris.
h 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre et si vous nous écoutez dans votre bain, faites très attention.
Oh là là, oui, c'est hyper dangereux le bain. Soit c'est trop froid, on s'enrhume, soit c'est trop chaud, ça file des varices et c'est pas bon pour le cœur. Soit, carrément, on vous bute.
Bon, le résumé est un peu court, Mathieu, mais il y a un fond de vérité car nos trois personnages du jour sont tous bien morts dans leur bain. Si l'empereur Commode y a bien été assassiné par son esclave Narcisse sur ordre de sa concubine préférée, qu'il voulait lui-même éliminer, je vous raconte maintenant le destin de Jim Morrison, le chanteur iconique des Doors, qui a tristement fini dans sa baignoire aussi à Paris, au beau milieu de la nuit. Quant à vous, Mathieu, vous nous parlerez d'une femme morte dans son bain. C'est rare, ça, que votre personnage soit mort aussi.
Ben oui, mais si vous voulez, aujourd'hui, j'avais pas trop le choix, sinon mon personnage n'entrait pas dans la thématique. Le thème de l'émission n'étant pas, ils se sont sentis mal dans leur bain, ils ont appelé le 15 et finalement ils s'en sont sortis. Mon personnage ne s'en est pas sorti non plus, et pourtant, vous allez voir que mourir dans son bain était certainement le dernier des trucs qu'elle aurait imaginé. Je vous raconte la folle histoire de Domino Harvey, la mannequin devenue chasseuse de primes.
J'ai hâte de vous entendre. Je ne sais pas où vous allez chercher toutes ces histoires.
Moi non plus. Peut-être que ce n'est pas moi qui vais les chercher.
Avant.
On va peut-être me les chercher.
Sans oublier nos chroniqueurs qui méritent une prime même. Bon, en même temps, je ne suis pas des RH européens. David Castel-Lopez, vous nous racontez les origines du fer à cheval.
Oui. J'essaierai de vous dire aussi pourquoi est-ce qu'il est censé porter bonheur.
Il y a des gens qui le mettent sur leur voiture à l'avant.
Oui,
j'avais compris ça.
J'en ai pas vu un sur l'avant de votre.
Non, je ne l'ai pas mis. La Punto, je trouve qu'une Punto, ça ne doit pas être défiguré.
Mais
par
dans
quoi
votre voiture, il y a le chien qui fait non.
Non, à l'arrière. Si votre Toyota est fantastique. Bon, bref, Olivier Pouls est avec nous.
Ça va tellement vite que le pauvre chien est dans un état. Avec Olivier Pouls, on a le fameux gâteau au moka.
Je vais vous donner la recette, une recette. Un peu compliqué, puis une recette très simplifiée si vous avez envie de le faire, mais alors
Parce qu'il existe une version compliquée de mon gâteau au moka.
Le vrai, celui que vous trouvez chez les bons pâtissiers, il est un petit peu technique, mais on peut vraiment la simplifier à la maison.
Mais est-il vraiment meilleur ? Moi, je pose la question, je ne sais pas.
Vous jugerez.
La lutte finale, ça sera en toute fin d'émission, et ma foi, ça nous départagera. On verra qui est le moins nul en histoire dans cette bande. Mais Pour l'heure, découvrons notre deuxième personnage qui est mort dans son bain. Stéphane Bern appelle Mirza, car il ne prend jamais de bain sans lui, et il nous raconte Jim Morrison.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Les circonstances de sa mort sont troubles, comme l'eau de son bain devait l'être lorsqu'il a été retrouvé inanimé en pleine nuit dans un appartement à Paris.
Avec un tout petit pénis au repos.
Oui, alors visiblement vous avez accès à toutes les pièces du dossier, mais... Stéphane, vraiment c'est impressionnant. Stéphane nous raconte avec force de détails donc la légende du rock qui a rejoint le club des 27, le chanteur des Doors, Jim Morrison.
En mourant, Jim Morrison a intégré en effet le club très sélect des grandes stars du rock parti trop tôt. À l'âge de 27 ans donc. Alcool, drogue, dépression sont les trois mots qui expliquent souvent leur disparition. Jimi Hendrix, Brian Jones, Janis Joplin, Kurt Cobain et plus récemment Amy Winehouse en ont fait les frais. Tout comme Jim Morrison retrouvé mort dans son bain à Paris en juillet 1971, un décès prématuré aux circonstances douteuses qui contribuent à façonner la légende de ce génie du rock'n'roll. James Douglas Morrison est né à Melbourne, l'autre en Floride, le 8 décembre 1943. Son père, officier de l'US Navy, a fait la guerre au Japon et en Corée. Au gré de ses affectations, le petit Jim voit du pays. Direction Washington, le Nouveau-Mexique ou la Californie. À 11 ans, il a déjà pu décorer pas moins de 8 chambres différentes. C'est peut-être l'une des raisons de son instabilité. Mais un événement fondateur peut expliquer que l'enfant soit quelque peu soucieux. Ce terrible drame dont il a été le témoin à l'âge de 4 ans. Lors d'un trajet en voiture de Santa Fe à Albuquerque, Jim regarde par la fenêtre. Soudain, sous ses yeux innocents, un terrible accident se déroule. Il racontera ce qu'il voit ensuite dans la chanson « Peace Frog ». Des Indiens éparpillés sur la grande route à l'aube sanguinolent. Des fantômes qui s'attroupent dans l'esprit du jeune enfant, fragile comme une coquille d'œuf. Plus tard, quand il s'intéressera au chamanisme, Morrison dira lui-même s'être senti possédé par leurs âmes. En grandissant, sa personnalité complexe et son physique de beau gosse fascinent ses camarades de classe. Ses profs, eux, sont impressionnés par ses excellents résultats. Le QI du futur artiste est évalué à 149. Bon, à titre de comparaison, celui d'Einstein est de 160. 11 points de plus seulement, mais l'élève Morrison préfère rester distant. À la fac, Jim suit des cours sur la philosophie de contestation et la psychologie des foules. Il lit Nietzsche, Freud, Jung, tous les écrivains en rupture l'intéressent. De Faulkner à Céline, Sade, Baudelaire ou Rimbaud, jusqu'au poète de la Beat Generation, en pleine explosion sur la route de Jack Kerouac, paru en 1957, devient l'un de ses livres de chevet. Il joue à se glisser dans la peau de son héros, Dean Moriarty, le beau parleur, le voyou éclairé, l'escroc séduisant. Mais Jim Morrison ne change pas de voix. S'il étudie le cinéma à l'Université de Californie, ce qu'il préfère, c'est d'écrire des poèmes sous LSD. La drogue circule à une vitesse folle et les stocks semblent illimités. Puis un jour, c'est décidé, il veut faire du rock. À Venice Beach, il fait la rencontre d'un musicien, Ray Manzarek. Les deux hommes rêvent d'une musique transcendantale où se mêleraient le jazz, la poésie, le rock et le blues. Bientôt rejoints par le batteur John Densmore et le guitariste Robbie Krieger, ils fondent un groupe. Comme titre, facile, The Doors. Une référence à leur livre fétiche The Doors of Perception and Heaven and Hell, Les Portes de la Réflexion en français, d'Aldous Huxley, un ouvrage phare sur les effets que les substances psychédéliques ont sur l'homme. Sur eux, elles servent à la création d'un succès mondial et d'une carrière internationale. Car dès l'année suivante, après une interprétation sur scène de Light My Fire, le groupe signe avec le célèbre label Elektra, qui réunira dans son catalogue Metallica, Mötley Crüe, Queen, The Stooges ou encore Buffalo Springfield. Mais il ne faut pas attendre longtemps pour que Jim Morrison, qui hypnotise les foules, crée un premier scandale lors d'un concert à Los Angeles. Sur le morceau « The End », il raconte l'histoire d'un assassin venu tuer ses parents et se met à chanter « Père, je veux te tuer. Mère, je veux te baiser. » Le groupe est chassé de la salle du Whisky à Gogo. Dans la foulée, le morceau devient un standard du rock. Et dans leur premier album, les gars ne s'arrêtent pas là. Spiritualité, drogue, révolte, sexe, ils chantent tout ce qu'ils ont à dire ou trouvent à redire. J'ai toujours été attiré par tout ce qui parlait de révolte contre l'autorité. Celui qui se réconcilie avec l'autorité se met à en faire partie, disait Morrison. En toute logique, il s'engage contre la guerre au Vietnam, comme avec la chanson « Unknown Soldier ». Television, children fear, unborn living, living dead. Bullets strike the helmet's head. En toute logique aussi, il est donc surveillé par la police. Lors d'un concert à New Haven en décembre 1967, Morrison incite la foule présente en masse à se rebeller. Le show n'ira pas jusqu'à son terme. La police vient le chercher sur scène pour comportement immoral, trouble à l'ordre public et refus d'obtempérer. La rockstar enchaîne ensuite les provocations, feignant même d'être fusillé sur scène. La désillusion est grande pour Jim Morrison quand il réalise qu'il ne changera pas la société. Mais lui veut changer. Probablement pendant une montée d'acide, le chanteur décide de se faire appeler le roi lézard, lui qui avoue sa fascination pour le reptile. Son physique se transforme plutôt tel un caméléon. Son image est révélatrice de sa mélancolie et de sa frustration. C'est fatigué et en surpoids qu'il arrive très en retard sur une scène de Miami le 1er mars 1969. Le concert est catastrophique. Son discours anarchiste est très agressif. « Vous n'êtes qu'une bande de putains d'idiots », lance-t-il sans ménagement à son public.
Traduction, Stéphane ?
Non,
qu'est-ce qu'il propose
Il y a des mots, que je ne peux pas traduire.
Il va venir faire quelque chose avec ses fesses, visiblement. Mais...
Défoncé, Morrison oublie les paroles de ses chansons, saccage les morceaux. On raconte qu'il aurait même montré son sexe, voire qu'il se serait masturbé sur scène. On n'était pas là. Quelques mois plus tard, le festival de Woodstock se joue sans les Doors, qui trouvent alors porte close. En 1971, Jim Morrison se réfugie à Paris avec sa compagne Pamela Courson. Il veut désormais se consacrer à la poésie. Mais ce sera tout juste un haïku, car le 3 juillet de l'année suivante, il est retrouvé mort dans sa baignoire, à l'âge de 27 ans. Officiellement, il s'agit d'une crise cardiaque, bien qu'aucune autopsie n'ait été réalisée. Certains pensent que le chanteur a été assassiné par les services secrets, d'autres qu'il a succombé à une overdose. Quoi qu'il en soit, c'est à Paris que Jim Morrison a fini sa vie et il y repose en paix désormais au cimetière du Père Lachaise. Sur sa tombe, qui est la plus visitée du Père Lachaise, on peut lire l'inscription grecque « Kataton daimona e eitoi » qui signifie « fidèle à son propre démon ». Fidèle assurément, peut-être même un peu trop.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de la légende Jim Morrison, nous sommes avec un réalisateur qui s'est intéressé aux derniers jours de sa vie, justement. Bonjour Olivier Monsens.
Mais bonjour Mathieu, bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Olivier Monsens. Le temps de passer un peignoir et on parle avec vous dans un instant.
Non, j'ai l'image, vite enchaînons.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre et nos personnages bien morts dans leur bain continuent. On parle de Jim Morrison avec notre invité Stéphane, l'auteur et réalisateur Olivier Monsens.
Oui, Olivier Monsens, vous avez réalisé Jim Morrison, Derniers jours à Paris, un documentaire diffusé sur Arte qui revient sur le séjour parisien et la mort tragique du rocker. Cette période n'est que la conséquence, j'imagine, de toutes les autres. À 27 ans, on le voit dans le film, Morrison est quand même déjà bien affaibli. Hein.
Oui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, effectivement, comme tous les rockers, a abusé de toutes les drogues possibles et imaginables, sauf l'héroïne, c'est important de le préciser. Mais surtout, son addiction, c'est l'alcool. Il a commencé à en boire assez jeune, adolescent. Et il en boit de façon
immodérée,
des quantités astronomiques, ce qui résulte de ses harangues sur scène. Donc il est quand même déjà très usé, il est aussi usé par ce star system. S'il vient à Paris, on en parlera sans doute, c'est aussi pour se défaire de toute cette carapace qu'il ne supporte plus. Donc voilà, il y a tout cet environnement, ce star system qui ne supporte plus, l'alcool, la justice, enfin voilà, effectivement, il est méconnaissable quand il arrive à Paris quand même.
Qu'est-ce qui fait qu'on est toujours fasciné par Jim Morrison aujourd'hui ? Alors, il est difficile à cerner, il est brillant, il a l'air indéniablement habité, et étrange, il est contestataire. C'est tout ça, tout ce cocktail qui fait qu'il est toujours fascinant ?
Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense que pas mal de jeunes générations s'intéressent à Jim Morrison, pour la musique bien sûr, mais le voient finalement d'abord comme un poète.
Donc, ça lui aurait plu ?
Oui, ah bah, tout à fait. Quelque part, on peut dire qu'il a réussi. Évidemment, c'est une icône rebelle, mais ça, il n'était pas le seul. Il était très beau, mais il y avait d'autres cœurs qui plaisaient au fils. Alors, je pense qu'on peut le dire aussi. Mais effectivement, d'abord, c'était quelqu'un d'extrêmement cultivé qui a lu, vous l'avez dit, Stéphane, très tôt, mais absolument tout. Il a lu des
philosophes, des poètes, tout.
Oui, des anthropologues, des psychologues, des auteurs pointus, Charles Mackay du 19e. Et puis ses potes, on en a cité. Il y a aussi William Blake, qui était quand même un personnage un peu particulier. Donc voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, et puis quand même, icône rebelle, mais sur scène il va les dépasser tous, quoi. Alors parfois de façon assez pathétique, il faut bien le dire, et à d'autres moments de façon extraordinaire, mais c'est vrai que quand il se plonge dans les écrits de que ce soit Charles Mackay, mais aussi Gustave Le Bon, donc qui parle de la psychologie des foules, quelque part il va utiliser ça pour hypnotiser cette foule. Alors pas de façon démoniaque, mais voilà, parce qu'au fond, être une rockstar, c'est pas ce qu'il voulait, mais il les a sur scène. Et il va faire feu de tout bois, quoi.
Pour ne citer que quelques qualificatifs évoqués dans votre documentaire, on dit de Jim Morrison qu'il est un baryton, un poète, un troubadour des temps modernes, un beatnik, un routard, un manipulateur de foule, un libertaire. Mais au fond, qui est-il ? Parce que c'est un poète solitaire ou une bête de scène ?
Effectivement, avant tout, il est poète, il écrit depuis l'enfance, il a écrit toute son adolescence, il a tout jeté à un moment donné, il s'est dit avant de commencer sa carrière, je vais tout jeter, c'est une sorte de libération, si je ne jette pas tout ce que j'écris, je n'irai pas plus loin. Et donc, bon, et après, donc, ses calepins ne le quitteront plus, il va écrire, il va d'abord publier des poèmes à compte d'auteur, enfin un recueil à compte d'auteur, etc. Donc effectivement, et quand il revient à Paris, c'est pour ça, il ne veut plus faire de musique. Il a tourné le dos au dos, ça fait un moment qu'il, de toute façon, il est là de façon épisodique en studio. Le dernier album, il y est allé, mais dans des conditions un peu dramatiques, enfin, pas dramatiques, j'exagère, mais enfin, très compliquées, et il est parti avant le mixage. Donc, il n'entendra d'ailleurs le résultat de l'album qu'une fois à Paris, et John Densmore lui enverra un test pressing, comme on dit, il l'écoutera. Mais ce qu'il veut, c'est être poète, et Paris est évidemment la ville des poètes. Avec notamment Rimbaud, enfin il y en a beaucoup, mais je veux dire, Rimbaud est probablement celui qui se rapproche le plus de son âme.
On apprend qu'à Paris, il passe assez inaperçu finalement, alors qu'aux États-Unis, il est une énorme star. La célébrité, vous l'avez dit un peu, l'a abîmé, il cherchait à retrouver un certain anonymat, c'était le but aussi de Paris.
Oui, alors il faut savoir que quand les rockstars arrivaient à Paris, Mick Jagger ou même Paul McCartney, s'ils étaient seuls, bon, on les reconnaissait, mais il n'y avait pas d'hystérie. S'ils étaient en groupe, c'était l'hystérie. Oui. Donc là, il arrive seul. C'est déjà une différence. Ensuite, les Doors, groupe évidemment mondialement connu, mais, et Jim Morrison, icône bien sûr, mais je veux dire, on n'est pas dans une époque où les réseaux sociaux, il n'y a pas beaucoup de magazines de rock, il y a pas, la presse traditionnelle ne parle pas de rock, il n'y a pas d'émission rock à la télé, Blanc Francard arrivera peu après. Donc, je veux dire, c'est pas non plus, il n'est pas surmédiatisé.
Il devient véritablement alcoolique et l'alcool le dévore à petit feu, il est complètement dans l'autodestruction, oui. Il boit du lever au coucher, il néglige même sa santé. D'ailleurs, vous diffusez dans votre documentaire un enregistrement du chanteur quelques jours avant sa mort qui montre que le leader charismatique des Doors semble bien loin.
Well, I used to know her, but she was 10 feet tall.
And she had blue eyes.
Oui, il est plus que l'ombre de lui-même
oui,
à ce moment-là.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc effectivement, il boit, et même ses fans, même les gens qui l'aiment, trouvent ça gênant. Et peu après, là, ce sera la descente aux enfers, quoi, la chute.
Alors justement, Jim Morrison, il est officiellement mort, on l'a dit, d'une crise cardiaque dans sa baignoire, mais ce constat, ainsi que la déposition de Pamela Courson, sa compagne, sont remis en question. Finalement, c'est Sam Bernett, dont vous parliez, le directeur artistique du club Rock'n'Roll Circus, qui a le fin mot de l'histoire.
Il devait être dans un état de déprime total, terrible, puisqu'il est allé se réfugier dans les toilettes pour prendre la dope, pour lui-même. Et il s'est tué.
Sa mort a finalement tout d'un polar, en fait.
Oui, parce que, évidemment, Pamela Courson, donc sa compagne avec qui il est à Paris, et qui, elle, est héroïnomane. Et donc, la version officielle sera « Je l'ai retrouvé dans la baignoire ». Enfin, on a regardé des films ensemble, puis il s'est endormi, j'ai entendu sa respiration, il a vomi du sang, il est allé dans la baignoire. Et puis, je l'ai trouvé le lendemain matin, mort. Enfin, à 5h du mat, bon. En réalité, des tas de gens l'ont vu, enfin des tas de gens, plusieurs personnes l'ont vu à Paris. Et Sam Bernett, un jour, bah, le voit, ce fameux soir. Il attend quelqu'un au bar, probablement, et puis à un moment, quelqu'un lui dit « mais on essaie d'entrer dans les toilettes, c'est plié, la porte reste fermée,
ah oui, c'est là qu'il est.
Et c'est là qu'on le trouve, et donc, ben voilà, plus probablement, il est allé chercher de l'héroïne pour Pamela, puisque lui n'en prenait jamais, n'en avait jamais pris, autant un héroïnomane peut prendre de l'héroïne, et bon, il y a souvent des overdoses, la preuve,
mais,
enfin bon,
mais c'est la première immédiat, fois qu'il aurait pu l'héroïne,
mais là, c'est la première fois,
en plus, par
le nez, bon, ça, apparemment, j'ai un expert qui en parle, c'est pas tant ça le problème, mais c'est la première fois, le corps ne résiste pas, ça, plus évidemment l'alcool qu'il a emmagasiné, et voilà.
Mais il est mort dans les toilettes, en fait.
Oui, mais bon, enfin voilà.
Et on l'a ramené chez lui après, donc.
On l'a ramené, et alors, bon...
Mort.
Oui,
il
bien
était
sûr.
Déjà mort.
Il était mort. Et alors, évidemment, vous parliez de Pollard, ce qu'on ne saura jamais, finalement, c'est qui l'a ramené. Sam Bernet a vu, effectivement, au moment où il veut appeler la police, ou même un médecin, on va quand même appeler en même temps, on ne sait jamais ce qu'il est vraiment mort, etc. Il y a deux gars qui s'amènent, il dit non, on le connaît, il est souvent comme ça, il fait des syncopes, voilà. Et puis, il l'emmène dans le couloir, en fait, qui passe en dessous de l'Alcazar, puisque les deux endroits se réunissent. Hein, voilà. Et puis, il disparaît dans la nuit. On ne sait pas ce qu'il
on
est.
Voilà, on le ramène chez lui, on le met dans la baignoire, et voilà.
Et voilà. Et très longtemps, évidemment, c'est la version officielle et donc fausse qui a circulé. Mmh. Pourquoi ? Moi, je me suis dit, mais pourquoi, au fond, une rockstar qui meurt d'une overdose ?
Oui, il y en a eu d'autres, en plus. Oui.
C'est tristement...
Alors, pourquoi cette histoire mort dans son bain ?
Probablement parce que qu'on meurt d'une overdose chez soi, dans son canapé, dans une loge de concert. Ça a un côté un peu romantique, dramatiquement romantique. Mmh. Ouais. Mais effectivement, dans les lavatories d'une boîte, c'est peut-être pas terrible. Et Jim Morrison était... on a envie d'en garder une image tellement plus belle. C'était un poète, il faut le rappeler. Formidable, un homme d'une gentillesse. Moi, quand j'ai fait ce film, c'est grotesque, mais j'ai eu l'impression d'avoir découvert un ami. J'avais l'impression de le prendre par l'épaule, parce que ce qu'il vivait à ce moment-là, c'était ces derniers mois, on sentait qu'il voulait se retrouver le petit garçon qu'il avait été, et l'enfant qu'il avait été. Et donc, c'est ça qu'on a envie de garder comme image et sa musique. Et ses poèmes, ses poésies.
Ben merci beaucoup, Olivier Monsens, d'être venu avec nous
avec
sur
plaisir.
Le destin tragique d'un rockeur de légende. Je rappelle que votre documentaire Jim Morrison, Derniers jours à Paris, est disponible en VOD sur le site arte.tv.
Merci beaucoup.
Europe 1, historiquement vôtre.
Aujourd'hui, historiquement vôtre est donc consacré à ces personnages qui sont morts dans leur bain. Après l'empereur Commode et Jim Morrison, vous nous racontez l'histoire incroyable d'une fille qui était loin de l'être Commode.
Oh ça non, mieux valait pas vous mettre sur le chemin de Domino Harvey, une sorte de Calamity Jane des temps modernes, ancienne mannequin devenue chasseuse de primes et qui a fini sa folle vie elle aussi dans son bain.
16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque des personnages qui sont morts dans leur bain. Après l'empereur Commode et Jim Morrison, vous nous brossez Mathieu le portrait, bon, à 99% vrai, d'une femme au destin à 100% improbable.
Oui, Stéphanie, il y a quand même des gens vraiment chelous. Un peu comme si l'objectif qu'ils s'étaient fixé dans la vie était d'être chelou. En France, le maître étalon du genre, et on n'est pas peu fiers, c'est évidemment David Castello-Lopez, le seul journaliste qui, en plein milieu d'une émission d'histoire, peut soudain déclarer...
Je sais pas pourquoi je fais ce bruit-là.
Nous non plus, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Eh bien, c'est difficile à croire, mais d'un point de vue psychologique, mon personnage du jour est encore plus bizarre que David. Déjà, c'est une personne qui s'appelle Domino, ce qui, à part chez Michou, est rare. Domino Harvey. Et c'est même pas un pseudo, c'est son vrai nom. Là où ça devient vraiment chelou, c'est que dans la vie, Domino n'est ni travesti, ni maîtresse SM. Elle est chasseuse de primes. Une chasseuse de primes, c'est quoi ? Je vois Olivier qui s'excite sur le thème chasseur et vous, Stéphane, vous agitez à la mention prime. Regroupons les deux éléments, si vous voulez bien. La définition officielle d'un chasseur de primes, personne qui gagne sa vie en attrapant des hors-la-loi pour la capture desquels est offerte une prime. Cette activité se répand avec la conquête de l'Ouest aux États-Unis, période réputée pour son banditisme galopant. En gros, chasseur de primes, c'est comme chasseur de tête, mais sans LinkedIn et avec des flingues. Toute la question est donc de savoir comment diable une jeune fille de bonne famille est devenue chasseuse de primes. Car oui, Domino voit le jour en 1969 dans le confort ouaté d'une demeure bourgeoise londonienne. Ses parents sont dans le show business, Stéphane, et comme toute personne évoluant dans le show business, ils n'ont pas pour projet d'appeler leur fille Julie. Non, il faut donner dans l'original, puisqu'on est artiste. Domino doit son prénom à une James Bond girl, Domino Derval, du film Opération Tonnerre, sorti en 65. Son père est acteur, Laurence Harvey, sa mère Pauline est mannequin. Très tôt, Domino se révèle être ce qu'on appelait, avant que les féministes nous en signalent la connotation péjorative, un garçon manqué. Il faut dire que certains événements de la vie vont contribuer à l'endurcir, notre Domino. Alors qu'elle n'a que 4 ans, son père meurt d'un cancer de l'estomac et sa mère se taille à Beverly Hills avec un nouveau mec, expédiant Domino dans un pensionnat où ça file droit. Enfin, normalement. Car avec Domino, rien ne file jamais vraiment droit. Elle fait connerie sur connerie et se fait virer de plusieurs établissements. On la décrit à l'époque comme une jeune, grande, belle et distante petite connasse, pour citer ses anciennes camarades de dortoir. Toutes disent qu'elle avait déjà en elle une sorte de brutalité rentrée qui, on va le voir, ne demandait qu'à sortir. À 10 ans, elle tabasse les garçons de sa classe à la récré. À 15, elle remplace les caplas par des couteaux et des nunchakus. Une chose est sûre, elle ne sera pas comme sa mère. Oui, Stéphane, l'histoire de Domino, c'est d'abord l'histoire d'une rébellion. Bon, on se rebelle tous hein, à l'adolescence. Je vous rappelle qu'une fois dans un rallye, après 5 tirs, vous avez dit
« Abba les Habsbourg ».
Bon, votre rébellion n'est jamais allée plus loin que ça. Celle de Domino, un peu plus. Abandonnant les études, elle devient un temps DJ à Londres. Et puis à 19 ans, ouh, très bonne version remixée de I Got a Feeling. Dis donc, ça vous m'avez surpris en régie. Puis à 19 ans, elle va jardiner dans un kibboutz en Israël avant de déménager dans les montagnes près de San Diego pour bosser dans un ranch. Elle boucle la boucle en revenant finalement auprès de sa maman à Beverly Hills. Toujours aussi sympa, cette dernière lui dit « Tu peux venir chez moi à condition que tu trouves un job ». Domino devient alors mannequin pour l'agence Ford. Elle est très demandée, ça paye bien. Mais voilà, très vite, elle en a marre, je cite, « de recevoir des ordres de la part d'abrutis ». Fini les photoshoots, Domino devient logiquement pompier volontaire à la frontière mexicaine, bien sûr. Bon alors, ça, elle réalise très vite que ça paye moins que mannequin, alors elle se met à éplucher les petites annonces et un jour, dans le LA Times, elle lit « Recherche chasseur de primes ». Elle ne sait pas trop ce que ça recouvre, mais elle répond à l'annonce et se rend à un séminaire de chasseurs de primes. Oui, apparemment, ça existe. Hein. Alors, je ne sais pas si ça se passe aussi dans un kyriad et s'il y a aussi une activité karting de prévu, mais c'est le même principe, la présentation des armes en plus. C'est lors de ce joyeux séminaire qu'elle rencontre un certain Ed Martinez et puis Choco, ses deux futurs acolytes. Elle n'a que 23 ans. Dans un premier temps, dans ce petit trio qu'ils forment tous les trois, elle sert simplement d'appât pour attirer les criminels qui ne se méfient en rien de cette jeune mannequin soi-disant écervelée. Elle écume les boîtes de nuit avec une technique de séduction bien rodée afin de livrer ses cibles à Ed et Choco. Au début, on lui assigne que du menu fretin, des voleurs, des toxicos. Mais peu à peu, Domino, qui n'a peur de rien, monte en grade et commence à chasser des gros bonnets. Sa devise, sortie tout droit d'un western, pile tu vis, face tu meurs. Domino a beau vivre encore dans le garage de sa mère, un garage dont la déco est essentiellement à base d'épées, de couteaux et de AK-47, maman ne voit rien jusqu'au jour où elle comprend. Sa réaction ? Non, elle ne la vire pas, elle soutient sa fille et pour son anniversaire, elle lui offre un gilet pare-balles. Désormais bien équipée, Domino enchaîne les faits d'armes, notamment cette mission de tous les dangers où elle se retrouve seule face aux 20 calibres d'un gang redoutable. Son secret ? Le courage, bien sûr, mais aussi la drogue. Et oui, à force de confisquer leurs marchandises aux trafiquants de stupes qu'elle traque, et bien Domino s'est mise à taper dans les stocks. Si bien qu'elle va finir elle-même totalement junkie, Stéphane. Les cures de sevrage à Hawaï n'y feront rien. On la retrouvera à 35 ans, morte dans sa baignoire après une ultime overdose de fentanyl. En 2005, les amateurs du site Nanarland en ont probablement entendu parler, sort Domino de Tony Scott, un film que le réalisateur a mis plus de 10 ans à monter. Il y retrace, assez peu et notamment, le destin de Domino, incarné par Keira Knightley. Et pour être au plus près de sa personnalité, le réalisateur avait multiplié les rencontres avec la vraie Domino. Elle était géniale, elle était timide à l'intérieur, mais à l'extérieur, son attitude tenait les gens à distance, se souvient Tony Scott. Bon, le film a été un four total, mais admettez que la vie de Domino Harvey sort de l'ordinaire. Qu'est-ce que vous en dites, David ?
Je dis surtout que les femmes sont incapables de bricoler.
Mais oui, bon, donc, peu importe de qui je parle, le plus chelou, ça reste quand même vous, David, dans cette histoire.
Merci beaucoup, Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour. Au revoir.
Au revoir. Pour retrouver Stéphane, des chroniqueurs qui, par contrat, ne doivent prendre que des douches. On ne peut pas se permettre de les perdre, notamment Olivier Pouls qui m'a préparé aujourd'hui mon gâteau d'enfance préféré, le gâteau moka.
Oui, je vous ai préparé un petit moka, mon cher Mathieu. Est-ce que vous avez déjà essayé de le goûter, de le déguster dans un bain ?
Alors, vous savez quoi ?
Je déteste.
Vous savez quoi ?
Manger dans le bain ?
Vous, évidemment, c'est une blague dans votre bouche. C'est pareil, ouais, complètement
mais
con de manger.
Mais
alors, c'est mon gâteau d'enfance. Et moi, comme l'empereur Commode, je prenais mon goûter dans mon bain.
Dans votre bain.
Oui, ce qui aurait dû être interdit par mes parents, mais non. Et ma mère m'a porté mon gâteau dans mon bain. Ce qui explique peut-être psychologiquement beaucoup de choses ensuite. N'éduquez pas vos enfants comme ça. David Castello-Lopez est avec nous. Il nous raconte aujourd'hui les origines du fer à cheval.
Ici, Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Il remonte pour nous aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et notre quotidien, chaque matin quand on monte en selle sur notre cheval, notre monture pour se diriger vers Europe 1, c'est le fer à cheval.
Tout à fait. C'est assez rare quand même qu'on mette des vêtements aux animaux. Mais quand on le fait, il y a quand même la plupart du temps un côté ridicule quand même. Un chihuahua, c'est ridicule. Un chihuahua avec un petit pull, c'est encore plus ridicule. Et alors, quand il s'agit d'un petit chapeau, là, on atteint quand même des sommets de n'importe quoi. Mais il y a un animal sur lequel les vêtements ne sont pas ridicules. ce sont les chevaux. Vous pouvez mettre un manteau à un cheval, il aura l'air majestueux et pas du tout bête. Vous pouvez lui mettre des plumes sur la tête, ça lui donnera l'air important. Vous lui mettez un drap noir et ça devient un cheval des ténèbres, parfait pour un enterrement. Et bien sûr, le cheval, c'est aussi le seul animal auquel on met tout le temps des chaussures en métal, qu'on appelle exactement comme ça en anglais, hein, d'ailleurs, horseshoe, et en français, on les appelle plutôt des fers à cheval. Alors depuis que je suis petit, j'avoue, je me demande pourquoi est-ce qu'on met des chaussures aux chevaux. Je veux dire, les chevaux sauvages dans la nature, ils n'ont pas de chaussures et ils se démerdent très bien. Alors pourquoi on leur met des chaussures quand ils sont domestiqués? Eh bien, on leur en met parce qu'on fait faire en fait aux chevaux des choses qu'ils ne font pas eux-mêmes dans la nature. Et en particulier, les chevaux dans la nature, ils ne passent pas des heures à galoper comme des cons sans raison. Vous voyez, ils galopent par nécessité, une fois de temps en temps, pour fuir un loup, vous voyez, par exemple. Deuxièmement, dans la nature, les chevaux, ils n'ont pas des chariots de 500 kilos à traîner, ni des personnes obèses qui leur montent sur le dos. Et troisièmement, les chevaux, on les fait souvent marcher sur des terrains humides. Et sur les terrains humides, leurs sabots, ils ont tendance à se déliter plus facilement et donc à s'user. Alors le cheval, il a été domestiqué probablement autour de 5500 avant Jésus-Christ, donc ça fait un petit moment, et on sait que dès l'Antiquité, on avait compris que l'usure des sabots, des chevaux, vu ce qu'on leur demandait, était un problème. On sait que les Romains, ils utilisaient ce qu'ils appelaient des hipposandales, c'est assez clair de ce que ça veut dire, des sandales pour cheval, mais ces sandales, elles n'étaient pas clouées, elles étaient attachées, et c'était probablement plus des ornements que des choses utile. Non, en fait, ça peut paraître en fait très récent, mais l'invention du fer à cheval, elle date probablement du Moyen-Âge, même si la vérité, c'est qu'il n'y a pas non plus de certitude sur la date d'invention. On a retrouvé un fer à cheval dans la tombe de Childéric.
Hein, ça date un peu quand même.
Le père de Clovis, 5e siècle après Jésus-Christ, donc. Mais ça s'est vraiment développé que vers l'an 1000. Et il reste quand même cette question qui est sur toutes les bouches, hein, je l'entends.
Pourquoi ils portent chance?
Pourquoi est-ce que les fers à cheval portent bonheur? C'est assez dur de répondre à la question là aussi. Il y a une légende anglaise qui est la suivante, qui est qu'au Xe siècle, il y avait un forgeron en Angleterre qui s'appelait Dunstan. C'est un personnage historique. Lui, en revanche, il a été ensuite archevêque de Canterbury. Donc, c'est quand même quelqu'un qui... À cette époque, on pouvait passer de forgeron à archevêque. Moins courant maintenant.
Il n'y avait pas de plafond de
verre. Voilà, il n'y avait pas de plafond de verre. Et un jour, le diable est venu voir Dunstan avec son
cheval. Personnage avéré aussi,
voilà.
Le diable.
Il est venu voir Dunstan avec son cheval, sans se présenter comme le diable, hein, juste comme un citoyen normal. Et il a demandé à Dunstan de mettre des fers sur son cheval. Sauf que Dunstan, il avait reconnu le diable et il n'a rien dit. Sauf qu'au lieu de mettre le fer à cheval sur les sabots du cheval du diable, il les a mis sur les sabots du diable lui-même.
Le diable s'est laissé faire.
Et ça a fait super mal au diable parce que ça lui a fait super mal. Et du coup, le diable, il lui a dit non seulement c'est pas du tout ce que je t'ai demandé de mettre des sabots sur mes des fers sur mes sabots à moi, mais en plus ça fait super mal. Donc tu m'enlèves ça tout de suite. Et Dunstan, il a dit ok. Mais alors, tu me promets un truc, c'est que plus jamais tu rentreras dans une maison où il y a un fer à cheval accroché à la porte. Le diable, il a dit OK. Et voilà. Bon,
c'est assez crédible.
Évidemment, il y a énormément d'incohérences dans cette histoire. Comment est-ce qu'on peut brusquement mettre un fer à cheval sur le sabot d'un diable non consentant? Ça paraît pas possible. Deuxièmement,
pas
le fait de clouer un sabot sur un cheval, ça ne lui fait pas mal du tout. C'est comme piquer un cheveu avec une aiguille. Vous voyez,
Et le diable a des sabots aussi. Ah oui,
le diable a des sabots.
C'est vrai,
bien sûr, c'est sur les sabots du cheval. Et on voit pas comment les sabots du diable. Pourquoi les sabots du diable feraient exception? Pourquoi ils seraient différents des sabots de cheval?
Ils ont pas la même taille.
Ouais, peut-être, mais en tout cas, quand on cloue un fer à cheval, ça ne fait pas mal.
Rien.
Et enfin, dans toute cette histoire, le diable apparaît quand même comme très facilement bolossable, ce qui n'est pas possible.
C'est rassurant.
Oui, mais si on pouvait bolosser le diable, je veux dire, l'enfer ne ferait pas très peur. Donc, si vous voulez mon avis, je pense que cette histoire est fausse.
Oui. Voilà,
c'est mon avis.
c'est notre avis, je crois.
Il y a plus probablement quelque chose à chercher du côté que le fer lui-même, pendant longtemps, enfin au Moyen-Âge c'était quelque chose quand même d'assez rare et précieux. Et donc, c'est pas complètement étonnant que cette préciosité financière, elle est un petit peu glissée vers la préciosité symbolique. En tout cas, moi, j'en ai un chez moi. Voilà,
au cas où,
on ne sait jamais. J'y crois pas, mais bon, on ne sait jamais.
Mais le diable n'est du coup jamais venu.
Mais jamais.
Voilà.
Jamais.
Bah, ça marche.
Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Dans un instant, Olivier Pouls m'apporte le gâteau au mocha.
16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre.
Olivier Pouls, aujourd'hui c'est un beau cadeau que vous faites, cadeau virtuel puisque vous êtes venu les mains vides, mais vous me parlez du gâteau mocha.
Bah, c'est une commande, hein. Je vous ai raconté l'histoire du café mocha né en Éthiopie et dont le nom vient du port qui permettait de l'expédier. Et ce café, quand il est arrivé chez nous en France, eh bien, il a inspiré un certain nombre de pâtissiers. Et notamment ceux qui ont inventé ce fameux gâteau qui vous est si cher. Alors ce gâteau est arrivé en deux temps. En réalité, on le doit à une espèce de coproduction, si vous préférez, entre deux pâtissiers. Alors le premier temps se déroule en 1857. Un pâtissier du nom de Quillet, qui est établi rue de Bussy à Paris, met au point ce qui sera la première crème au beurre. Alors vous savez, la crème au beurre...
Sans crème au beurre, pas de gâteau mocha.
Pas de gâteau mocha. Et non, c'est devenu un incontournable de la pâtisserie.
Comment on fait la crème au beurre ?
Eh bien, je vais vous donner la recette dans un instant. Ah. C'est un peu calorique. Hein. Je vous cache ça, comme son nom l'indique.
Alors c'est de la crème et du beurre.
Du beurre, des œufs, des jaunes sucre. Et du sucre. Donc c'est assez monstrueux. Et donc il va créer ce premier gâteau à base de crème au beurre, qui à l'époque est parfumé plutôt à la pistache. Et c'est un autre pâtissier, quelques années plus tard, qui lui s'appelle Guignard, et qui a l'idée de parfumer cette célèbre crème au beurre avec du café. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce gâteau est resté pratiquement dans son jus, si l'on peut dire, puisque la recette a assez peu évolué. Alors, il y en a qui s'amusent à la simplifier ou à l'alléger, mais moi, je vais vous en donner deux versions, une un peu plus technique, si vous avez du temps, et une vraiment très, très simple. Alors, pour la version un peu plus technique, il faut d'abord faire ce qu'on appelle une génoise. La génoise, c'est le biscuit qui sert à élaborer le mocha. Alors pour ça, c'est 4 œufs, 120 g de sucre et 120 g de farine. C'est pas très difficile à faire. Il faut tout simplement commencer par mélanger le sucre et les œufs, chauffer tout ça au bain-marie, attention, jusqu'à 65 degrés. Il ne faut surtout pas que les jaunes d'œufs commencent à cuire. On bat vivement jusqu'à refroidissement. La préparation doit s'aérer, doit doubler de volume. Ensuite, on rajoute la farine, on met ça dans un moule qu'on a préalablement beurré et on laisse cuire pendant 30 minutes à 180 degrés. On a donc la génoise de base. Mmh. Cette génoise, on va la découper en trois dans le sens de la hauteur, pour farcir les couches.
Ah oui.
Et ça là, peut être délicat, ça, déjà. Oui.
C'est compliqué. Et là, il faut faire la fameuse crème au beurre. Alors là, notez bien, 4 jaunes d'œufs, 150 g de sucre, un tout petit peu d'eau, 5 centilitres, 200 g de beurre mou, et puis pour l'aromatisation au café, prenez de l'extrait de café, ça se trouve dans le commerce, ou tout simplement un expresso bien, bien, bien serré pour avoir le goût. Alors là, on réalise un petit sirop de sucre avec le sucre et l'eau. Là, il faut monter haut en température, à 121 degrés. On bat les jaunes dans le robot, on verse le sirop, puis le café, et on ajoute le beurre en petits morceaux, tout en continuant à mélanger. Alors le beurre, il doit être légèrement frais, mais pas trop. Et donc on va avoir cette espèce de texture un peu plus ferme qu'une chantilly, un peu dans l'esprit d'une mayonnaise. Et puis on prend nos morceaux de génoise, on tartine de la crème au beurre par-dessus, on rajoute de la génoise, recrème au beurre, etc. Et on décore le tout avec de la crème au beurre, quelques grains de café éventuellement, et on a ce gâteau de base. Mais si vous voulez gagner du temps, si vous voulez faire plus simple, alors vous pouvez utiliser pour remplacer la génoise des boudoirs. Mm-hmm. Prenez des boudoirs et vous faites une crème au beurre, là aussi simplifiée. Prenez du beurre mou. Dans le beurre mou, que vous mélangez un peu de sucre, vous mélangez donc votre café et vous mélangez deux jaunes d'œufs. Mélangez tout ça très 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 bien. Vous laissez légèrement tiédir de manière à pouvoir mélanger le beurre. Et puis vous faites un montage avec vos boudoirs, votre crème au beurre, vos boudoirs, votre crème au beurre, etc. Et on peut même verser un tout petit peu de café à la fin si on veut vraiment bien l'imbiber, le parfumer, ou alors tremper les boudoirs dans du café là aussi pour leur donner un goût. Mais alors on se rapproche plus du tiramisu.
Oui, c'est ça. On bascule sur le tiramisu à ce moment-là. Oui,
c'est
intéressant. Mais le mieux avec le mocha, ce n'est pas de connaître la recette, c'est de le manger sans se préoccuper, parce que quand on connaît la recette, ça fait un petit peu peur.
Mais
on
dit que c'est quand même ça fait très partie violent. De ces desserts qu'on voit encore dans certaines pâtisseries traditionnelles, mais qui ont un peu disparu. Je pense que c'est peut-être leur bilan calorique qui leur a pas beaucoup servi.
Moi, je ne le connaissais pas avant aujourd'hui, ce bilan calorique. Maintenant, j'y réfléchirai.
Vous en prendrez quand même une part.
Oui, ça ne m'arrêtera pas. Merci beaucoup, Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Et pour terminer, c'est la cerise sur le gâteau mocha. Attention, elle est un peu amère aussi. Ouais. On va s'affronter avec l'histoire, c'est la lutte finale.
Europe 1, historiquement vôtre.
David, au XVIIe siècle,
il était bizarre votre David,
sort un roman appelé Artamène ou le grand Cyrus, écrit par Madeleine et Georges Scudéry. Il a la particularité d'être parfaitement paritaire, écrit en 20 chapitres, 10 par monsieur, 10 par madame. Vrai ou faux ?
Il doit y avoir un truc de parité, mais qui n'est pas celui-là, alors je dirais non.
Le roman est surtout connu pour être le roman français le plus long jamais écrit. Il y a 2 100 000 mots.
Ah oui, quand même.
Mathieu, on se connaît un peu maintenant, j'aimerais franchir un palier dans notre intimité personnelle.
Oui.
Est-ce que vous aimez les statues équestres ?
J'adore ça.
Quand en sculpture, un chef militaire est représenté sur un cheval, il y a deux règles. Si le cheval a deux jambes en l'air, le cavalier est mort au combat. Si c'est une jambe en l'air, il est mort suite à ses blessures. Voici mes questions.
Ah, ça, c'est... donc ça, c'est vrai.
Oui. Si les quatre jambes du cheval sont au sol, c'est qu'il était vivant au moment où la statue a été faite. Vrai ou faux ?
C'est débile, non ? Oui, c'est faux.
Ça veut dire simplement qu'il est mort de mort naturelle.
Ah, voilà, oui, c'était dans la suite logique de ce que
vous avez dit. Vous êtes bon aujourd'hui. Olivier Pouls, comme les auditeurs les plus fidèles d'Europe 1 vous connaissent aussi sous le nom de Snoop Doggy Bag. Le rappeur Nekfeu a fait des holorimes, comme Victor Hugo d'ailleurs. Une holorime, c'est quand la rime rime aussi au milieu du vers.
Wow.
Vrai ou faux ?
Holorime, quand la rime au milieu du vers. Un petit exemple peut-être pour comprendre ou non ? Ou je dois tirer à pile ou face ?
Je joue ma vie à pile ou face.
C'est différent.
Vous avez, non, pas d'exemple. Pas de...
J'ai un exemple, mais je vous le donne après pour solutionner.
Oui. Bon, bah, je sais pas, je dis que c'est faux. Allez.
Vous avez évité le piège, c'est bien. Une holorime, c'est quand le vers peut se comprendre différemment alors qu'on l'entend pareil. Par exemple, je cite Nekfeu. Il dit « Avant, tu riais de l'inconnu », mais on peut comprendre « aventurier de l'inconnu ».
Ouais.
Mais
y a
Il
y a « Galamant de la reine à la tour magnanime »,« Galamant de la reine à la tour magnanime ouais. ». C'est, ouais. En fait, c'est la rime parfaite de la totalité du vers avec le suivant.
Alors, vous avez tous les trois donné une bonne réponse, la question qui départage. La réponse la plus proche remporte la lutte finale. En 1957, c'est le traité de Rome. En 1992, c'est le traité de Maastricht, qui met en place, entre autres, le principe de subsidiarité. Pour résumer, on réserve à l'échelon supérieur, l'Union européenne, ce que l'échelon inférieur, les États membres, ne peuvent pas faire de façon plus efficace. Concrètement, en 1974, une directive forte a été prise pour réglementer la vitesse des essuie-glaces des tracteurs agricoles.
1974.
Oui. Combien de fois un essuie-glace de tracteur agricole doit-il traverser le pare-brise en une minute ?
Alors, moi, je dis 35.
35.
Attendez, j'ai pas
fini. Pardon.
Tic-tac.
Mais il faut aller vite.
Tic-tac. Faites l'essuie-glace.
Non, vous faites bien l'essuie-glace, Stéphane.
Alors vous,
Olivier. 150.
150 fois.
Ça, c'est vraiment...
Ah oui, c'est vraiment... C'est...
Il a pris du LSD. Ah,
là, l'essuie-glace, il a...
Je dis 100.
Ah, 100 aussi. Et ben, c'est Mathieu qui gagne.
Oh non.
Il y a un essuie-glace. C'est genre moins qu'une... Un peu plus qu'une seconde.
Non, un peu moins.
20 fois.
Tac, 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 tac. Quand ils sont à rapide, là, quand ils sont à vitesse maximum.
Oui, mais sur un tracteur.
Bah, il pleut pas moins sur le tracteur que sur une voiture.
Il pleut beaucoup moins.
Donc c'est moins d'une
la
fois par seconde.
La directive, c'est 20 fois minimum.
C'est moins.
20 fois ouais. C'est rien du tout.
C'est une fois toutes les 3 secondes. Il y a le mec
c'était en 74 à l'époque. Vous avez une meilleure vue sous la pluie.
Il a le temps d'avoir.
Et pourquoi c'est réglementé surtout ? Pourquoi si on peut faire plus, on ne peut pas faire plus ?
Et dans un prochain quiz, je vous parlerai du siège du tracteur qui a fait l'objet aussi. Eh bien, d'une directive européenne.
Sur sa taille, son moelleux,
sa hauteur, tout.
Historiquement vôtre, spécialisant canné dans leur bain, c'est terminé. Comme pour nos personnages, pour vous, Stéphane, c'est quoi le secret d'un bain réussi ? Je veux dire, à part le fait d'avoir bien nettoyé Mirza avant.
C'est les bons sels. Non, mais c'est vrai, les sels de bain, c'est vraiment important, le bon bain.
En résumé, signalez qu'il y a une heure. Vous ne preniez jamais de bain, Stéphane, pour l'environnement. Maintenant, on sait que vous mettez des huiles essentielles non, alors, et des sels.
Je ne prends jamais de bain.
Et si l'émission continue encore une heure, on apprendrait qu'il y a des esclaves qui vous éventent.
Je vous confirme que je ne prends jamais de bain. Mais ça ne m'empêche pas de savoir ce qui est bon.
Oui.
Voilà. C'est comme par exemple... Le gâteau, le moka d'Olivier Pouls, tout le monde sait que David ne va jamais y goûter.
Non.
Voilà.
Non.
Voilà, c'est un peu pareil. Je sais que ça existe, mais je ne l'utilise pas.
Exactement. Eh bien, écoutez, c'était une merveilleuse émission. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve tous demain. Et Stéphane, vous connaissez le programme.
Alors, demain, on réunit trois dames qui aiment faire le show. Annie Oakley, une as de la gâchette dans l'Ouest américain, à l'affiche des shows de Buffalo Bill, la reine du divertissement à la télé. Ensuite, on parlera de Mariti Carpentier.
Et Oprah Winfrey, qui continue à interviewer les plus grands aux États-Unis. Elle m'a d'ailleurs dit qu'elle comptait vous inviter, Stéphane.
Ah oui, c'est vrai?
Non, mais vous n'aurez pas pu y aller. De toute façon, je vous rappelle qu'on a une émission tous les jours, Stéphane.
Ah oui, c'est vrai, techniquement.
Il n'y a pas de regret à avoir.
Oui, c'est la seule raison pour laquelle je ne peux pas y aller. Oui, à demain, Mathieu, à demain, chers auditeurs.
À demain, Stéphane. À suivre, c'est Europe Soir avec Raphaël Delvolvé.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.